Et tout de suite, le journal avec Ilan Malka. Bonjour Ilan.
Bonjour Tiffen, bonjour à tous. Bruno Le Maire propose que la coopération France-Italie sur les chantiers navals de STX prenne une dimension militaire. L'idée de départ était de s'arrêter à une coopération dans le secteur industriel civil, mais le ministre de l'économie souhaite donc étendre la collaboration. Comment réagit-on à Rome? Nous verrons cela avec notre correspondant sur place, Xavier Sartre. Une fusillade a eu lieu cette nuit dans une discothèque en Allemagne. Le tireur a tué une personne et en a blessé grièvement trois autres avant d'être abattu par la police. Ses motivations ne sont pas encore connues, mais la police allemande affirme qu'il ne s'agit pas d'un acte terroriste. Élection extrêmement polémique au Venezuela aujourd'hui. Le peuple est appelé à élire les membres d'une assemblée constituante. Pour l'opposition, cette assemblée va simplement donner tous les pouvoirs au président Maduro et s'arranger pour faire taire les voix dissonantes. Afin de bien comprendre les enjeux précis de cette élection, notre invité de cette édition sera Paula Vasquez, qui est vénézuélienne et chargée de recherche au CNRS. Un défilé militaire surprise annoncé à la dernière minute s'est tenu ce matin sur une base militaire chinoise. Il s'agit d'un événement visant à célébrer le 90e anniversaire de la fondation de l'armée rouge. C'est l'occasion pour le président chinois de montrer sa volonté de transformer l'armée en véritable force d'élite. Raphaël Quinlis, qui est notre correspondante sur place à Pékin, nous en dira plus. L'annonce est donc faite aujourd'hui au journal du dimanche par le ministre de l'économie Bruno Le Maire. La France propose à l'Italie d'élargir les négociations concernant les chantiers navals de STX à une coopération militaire. Jusque-là, rappelle le ministre, on partait sur une base de coopération dans le secteur industriel civil, fin de citation. L'idée, c'est donc désormais de voir ce qu'il est possible de faire en commun dans le secteur militaire, dans les navires de surface. Ceci afin, toujours selon Bruno Le Maire, de bâtir un grand champion de l'industrie navale européenne. Alors le ministre doit se rendre mardi à Rome pour y rencontrer ses homologues. Quelles sont à Rome les réactions? Eh bien, on n'a toujours pas encore vraiment digéré la nationalisation temporaire de STX, le temps de faire les négociations. Xavier Sartre est notre correspondant sur place.
Nous ne reculerons pas d'un millimètre. La détermination du ministre italien du développement économique ne laisse rien augurer de bon sur l'issue des discussions de mardi avec Bruno Le Maire. Carlo Calenda veut au moins 51% des parts de STX France, sinon rien, il l'a encore répété samedi. Fincantieri a moins besoin des chantiers de Saint-Nazaire que le contraire, estime-t-on de ce côté-ci des Alpes. Depuis jeudi, c'est donc la fermeté qui prime, alimentée par un sentiment d'injustice et d'humiliation. Fincantieri ne peut pas être moins bien traité que les Coréens, surtout quand il s'agit d'un pays comme la France. Mais si du côté du ministère de l'économie on affiche sa détermination, compréhensible dans le cadre de négociations, du côté de la défense on souligne que Italiens et Français coopèrent déjà et construisent des FREM, les frégates multimissions, ce qui n'empêche pas par ailleurs d'être ensuite en concurrence à l'international. Or, le site de Saint-Nazaire permet la construction de navires militaires, et cela les Italiens le savent. La ministre de la Défense, Roberta Pinotti, a évoqué samedi un pôle italo-français auquel pourraient s'ajouter les Allemands avec qui les Italiens conçoivent déjà des sous-marins. Ce serait dommage, a-t-elle déclaré, de laisser passer une telle occasion de faire avancer le dossier de la défense européenne. Plus que les bateaux de croisière, ce sont les navires de guerre qui pourraient ramener un peu de paix entre Paris et Rome, à condition que les susceptibilités des uns et des autres cèdent le pas à la raison.
Et mardi, Bruno Le Maire va donc rencontrer le ministre de l'économie italien Pier Carlo Padoan et celui de l'industrie Carlo Calenda. La fusillade qui s'est déroulée cette nuit en Allemagne dans une discothèque n'est pas un acte terroriste selon la police. Alors on rappelle concrètement ce qui s'est passé. C'est un homme de 34 ans qui a ouvert le feu dans une discothèque de Constance dans le sud du pays. Il a tué un homme et grièvement blessé trois autres personnes. Il a ensuite été mortellement touché par une balle tirée par la police. Selon les premiers éléments de l'enquête, le tireur était un ressortissant irakien qui vivait en Allemagne depuis un certain temps et n'était pas demandeur d'asile. Ses motifs ne sont pas établis clairement pour le moment, mais la piste de l'acte terroriste est donc écarté. Pour le président vénézuélien Nicolas Maduro, il s'agit d'un moyen de pacifier le pays, d'apaiser la crise de contestation qui a fait plus de 115 morts depuis plusieurs mois. Pour l'opposition vénézuélienne, il s'agit au contraire d'un moyen pour le chef de l'État de s'arroger tous les pouvoirs. Une assemblée constituante doit donc être élue aujourd'hui au Venezuela. Les électeurs sont appelés aux urnes, les bureaux sont ouverts depuis quelques minutes. Plus de 230 000 soldats sont déployés pour les protéger. La nouvelle assemblée doit siéger dans les 72 heures suivant la proclamation officielle des résultats. Alors pour bien comprendre les enjeux de ce scrutin, l'invité de cette édition est Paula Vasquez, vénézuélienne, chargée de recherche au Centre d'études sociologiques et politiques Raymond Aron du CNRS. Nous l'avons jointe par téléphone un peu plus tôt dans la matinée.
Et les termes dans lesquels sont posées les choses dans cette constituante et cette constitution nouvelle qu'on a l'impression qu'elle est justement déjà réalisée, c'est une constitution qui relève plus d'une sorte de programme de restructuration des institutions pour encore plus avoir les contrôles totaux des institutions, et surtout c'est la fin de la séparation des pouvoirs. Lorsqu'on lit les documents et la manière dont ça a été fait et conçu, la subordination à l'exécutif, elle est totale. La question, c'est qui va aller voter et comment les gens vont s'exprimer vis-à-vis de ça. Bien sûr, ce qui est à craindre, c'est une énorme abstention et que les gens ne bougent pas de chez eux. Surtout dans les milieux populaires, tous les messages qui m'arrivent, c'est que les gens ne vont pas sortir de chez eux.
Qu'en est-il de l'armée? Quel rôle peut-elle jouer?
L'armée est devenue une sorte d'arbitre invisible, mais très présent. C'est un fantasme. Tout le monde passe à l'armée, mais personne ne sait vraiment ce que l'armée pense, en fait. Sauf les ministres de la Défense, le général Padrino López. Et le général Padrino López affiche une posture tellement inconditionnelle à Maduro que, à mon avis, ça peut être signe d'une fragilité aussi. Quelle nécessité il a de nous marteler aux Vénézuéliens sans cesse dans ses comptes Twitter, à la télé, que lui, il est inconditionnel à la révolution bolivarienne et à Maduro. C'est comme si il se le répète pour se convaincre lui-même. Et là, c'est intéressant. C'est un point névralgique, la question de l'armée. Pourquoi? Ce qu'on peut savoir, ce qu'il dit par exemple Rocío San Miguel, que c'est l'une des spécialistes des forces armées vénézuéliennes, c'est que les hauts gradés qui pourraient avoir accès à des troupes et aux armes, et qui ont manifesté une aversion ou un désaccord, des désaccords avec Maduro, ils n'ont pas accès ni aux troupes, ni aux armes. Ce n'est pas des gens qui ont des hommes derrière. Et c'est un rapport c'est un rapport de force. Mmh.
Voilà des propos recueillis par Valérie Crova. Une autre élection sous haute tension se déroule aujourd'hui. Ce sont les Sénégalais qui sont appelés à élire leurs députés. Plus de 6,2 millions d'électeurs sont appelés aux urnes. La campagne a été émaillée de violences qui ont fait de nombreux blessés. D'ailleurs, aujourd'hui, les Sénégalais sont interdits de circuler entre les régions du pays jusqu'à minuit. Le ministère de l'Intérieur espère ainsi que le scrutin se déroulera dans le calme. En tout, 47 listes se présentent. Alors, il y a celle de Macky Sall, qui est le chef de l'État. Il y a également celle du président précédent, Abdoulaye Wade, ou encore celle du maire de Dakar, Khalifa Sall. La Chine fête aujourd'hui les 90 ans de son armée populaire de libération. Pour l'occasion, le président Xi Jinping a assisté ce matin à un grand défilé sur une base d'entraînement située en Mongolie intérieure. Il a inspecté les troupes. « Nous devons bâtir une armée populaire forte », a-t-il dit. Il a également appelé l'armée chinoise à se transformer en force d'élite. Les précisions de Raphaël Quinlis, notre correspondante à Pékin.
Depuis 2 ans, l'armée chinoise est soumise à un ambitieux programme de modernisation. Pékin investit dans de nouveaux équipements et technologies tels que des avions furtifs ou des porte-avions, tandis que les effectifs de l'armée de terre, eux, sont toujours plus restreints. L'objectif de la Chine, c'est de construire une armée moderne, indépendante, capable de se déployer partout dans le monde, en limitant ainsi sa dépendance aux autorités sur place, dans le pays. L'une des plus grandes motivations de la restructuration de cette armée tient dans l'ambition de Pékin de rattraper les États-Unis, d'enrayer la justification de la présence américaine dans la région. Et pour montrer ce tournant, le président Xi Jinping lui-même a descendu la longue avenue bordée de chars, de véhicules lance-missiles, saluant au passage au micro les milliers de soldats au titre de camarades sur fond de musique militaire. Plus qu'une démonstration de force, il s'agit là de présenter le renouveau d'une armée longtemps minée par la corruption et un personnel sous-qualifié. Depuis toujours considérée comme une institution politique avec un grand rôle social à jouer à l'intérieur du pays, l'armée populaire de Chine doit à présent se constituer encore indépendant, mais pas trop tout de même. Le président a rappelé à plusieurs reprises la nécessité d'une loyauté totale de l'armée envers le Parti communiste.
Raphaël Quinlis, on attend des orages cet après-midi dans plusieurs secteurs. Le massif central devrait être concerné, tout comme la Lorraine, l'Alsace, Rhône-Alpes, les Alpes du Sud ou encore l'Auvergne. Le ciel sera en revanche ensoleillé autour de la Méditerranée. Côté température, ça partira de 19 degrés dans le nord-ouest pour monter jusqu'à 35 dans le sud-est du pays. Ce journal a été préparé avec Martin Descloseaux. Il a été réalisé à la technique par Emmanuel Morse d'Incan.